France Bleu Armorique, on cuisine ensemble.
Et oui, on cuisine ensemble, on vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste de la cuisine, mais également un confrère, François-Régis Gaudry. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous officiez depuis maintenant 6 ans le dimanche à 11h en la cathédrale de France Inter. Vos prêches sont assez simples, hein, dans la substance. Du plaisir, du partage, de la qualité, bref. Vous parlez de cuisine, hein, c'est bien ça.
Oui.
On ne s'est pas trompé. Bah, ça tombe bien, puisque tous les matins sur France Bleu Armorique, on cuisine ensemble. Alors, vous venez à nous voir à l'occasion de la sortie de votre livre, qui s'intitule, comme votre émission, On va déguster. Et il sort aux éditions Marabout.
Sachant que vous serez ce soir, François-Régis, en rencontre dédicace à l'invitation de la librairie Le Fayère à Rennes, à l'espace Ouest-France, pour rencontrer donc le public et éventuellement se faire dédicacer ce magnifique ouvrage.
Oui, ça, j'ai entamé avec les éditions de Marabout et les éditions de France Inter un petit tour de France qui passe par Rennes. J'en suis très heureux parce que je suis très attaché à cette ville où je viens régulièrement. On a d'ailleurs posé aussi nos micros il y a quelques mois, oui. Depuis l'opéra. On a dressé le couvert dans l'opéra devant un public qui est venu.
Il y a pire comme cadre, hein.
Très chaleureux, ouais. Cadre absolument superbe. Et public breton et rennais très très chaleureux. Donc je garde un très très bon souvenir de cette ville, évidemment.
Bon, parfait. Alors, c'est une magnifique... c'est une mine d'informations, en fait, ce livre. On y trouve de tout, avec Thierry Berton, qui est à nos côtés.
Bonjour, messieurs.
Également, qui est chef à domicile, un toquet à la maison. C'est bien ça, Thierry.
Oui.
Et donc, on rappelle que vous vous déplacez pour aller éventuellement réaliser des plats chez des particuliers.
Voilà, tout à fait. Faire déguster à domicile, apporter le restaurant chez les gens, ouais.
Bon, alors, je crois que vous êtes fan, hein, de François-Régis.
Bah, alors, moi, pour la petite histoire... Dès que j'ai su que j'avais possibilité d'en rencontrer François-Régis, du coup, j'ai foncé au plus près prendre un bouquin et j'ai eu la chance, et c'est véridique.
Il y a plein de post-it.
C'était le dernier.
Ouais.
C'était le dernier.
Bah ouais. C'est vrai, bah comme quoi, donc c'est plutôt bon signe, ça. Bah,
il marche assez fort, oui. Il est sorti le 25 novembre dernier. Et c'est vrai qu'il se vend très bien. On en est à la 5e réimpression, donc on en est très content. L'accueil est assez enthousiaste.
Alors, je pense qu'il va falloir assouplir, échauffer le poignet parce que c'est un peu dédicace. À mon avis, ça va y aller.
Ouais. D'autant qu'il fait 2,5
kg. Oui, il est énorme.
Conséquent. Hein.
On a plus de 300 pages à l'intérieur.
Il y a double emploi, on peut faire aplanir des escalopes.
Oui, c'est ça.
Absolument. Le matin, faire des...
Il a un sens pratique.
On peut faire de la muscu avec.
Tout à fait.
Alors François-Régis, sachez qu'on aura également avec nous ce matin Félix Legrand, notre baladeur, qui depuis ce matin nous fait vivre un jour de marché en direct. Il est en direct de la Guerche de Bretagne. On va préciser que ce livre, outre aplatir les escalopes éventuellement, eh bien c'est pas vraiment un livre de cuisine. C'est plutôt un carnet de route gourmand, des miscellanées cuisinaires, un peu le carnet du capitaine. C'est comme ça que vous l'avez voulu, ce bouquin ?
Oui, c'est un peu l'idée. En fait, quand Marabout et les éditions de France Inter m'ont fait la proposition de faire un livre, on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire, mais on savait en tout cas ce qu'on ne voulait pas faire. C'est-à-dire, on ne voulait pas faire uniquement un livre de recettes avec les recettes préférées des auditeurs de On va déguster depuis 5 saisons, même s'il y a évidemment des recettes, il y en a même 250 dans ce livre. Mais on ne voulait pas se contenter de faire un livre de recettes parce qu'il y en a déjà beaucoup sur le marché. On voulait pas faire non plus une encyclopédie en bonne et due forme de A à Z on n'est pas forcément les mieux placés et puis on trouvait l'exercice peut-être un peu rébarbatif. On voulait pas faire non plus un almanach avec une logique de saison, etc. Donc du coup on s'est dit, et pourquoi on ferait pas une espèce de bouquin un peu hybride au carrefour de tous ces registres éditoriaux pour faire un livre qui pourrait se définir, bah, comme vous l'avez dit, des miscellanées culinaires, une espèce de fourre-tout foutraque, de
belle-mêle. Ce qui est intéressant dans ce livre, on se balade, alors on peut déjà croiser les bonnes tables puisque vous êtes critique culinaire. Derrière, on peut savoir ce qu'on peut mettre au frigo ou pas. Après, on en apprend sur le vin, sur les œufs de mouette.
C'est une découverte que j'ai faite en Angleterre. J'ai fait un reportage. D'ailleurs, on est parti avec l'émission On va déguster, enregistrer une émission depuis Londres.
Ouais.
Et effectivement, j'ai découvert dans les restaurants anglais, un peu en vue du moment, des œufs de mouette, les Hill Eggs, qui sont en fait des petits œufs de couleur bleue, mouchetés de noir.
D'accord.
D'un format un peu plus gros qu'un œuf de caille.
Ouais.
Et avec une richesse incroyable du jaune et même cette petite note saline qu'on trouve à la fin. Et c'est évidemment un œuf qui est sous haute protection écologique.
Mm-hmm. D'accord.
Sa saison est juste limitée à quelques jours ou quelques semaines au mois de mai à peu près. Et c'est pour une question de régulation en fait écologique. Donc c'est ramassé avec des gens qui montent les falaises des côtes anglaises Lyonnaise en rappel, qui ramasse les œufs de mouettes et qui les distribue et qui les vendent d'ailleurs à prix d'or.
Ouais, c'est
au chef à Londres. C'est une découverte assez incroyable avec un jaune encore une fois très très riche, qui a presque une couleur rouge tellement il est puissant et riche.
Et alors 7,50 € l'unité pour le prix de base.
Ouais, wow, c'est un peu cher.
Ça fait cher l'omelette.
Ça fait un petit peu cher l'omelette. Et en même temps, ça s'explique justement sur la saisonnalité du produit, j'imagine.
Oui, et puis on peut considérer que c'est un œuf de luxe. Ça s'explique aussi par sa singularité gustative.
Il travaille comment d'ailleurs ?
Alors moi, je l'ai plutôt goûté. Vous savez ce qu'on appelle l'œuf parfait, l'œuf cuit. Je pense que notre chef voit de quoi
très
il s'agit.
Très basse température.
Un œuf cuit à basse température, à la méthode un peu japonaise. Et là, en l'occurrence, ça offre effectivement une texture extrêmement soyeuse, moelleuse. Un jaune qui est particulièrement velouté.
Ouais.
Et c'est, à mon avis, la meilleure façon de mettre en avant un œuf pareil.
Alors, vous pouvez nous appeler, 02 99 67 35 35. Profitez-en. Nous avons un spécialiste avec nous. C'est François-Régis Godry. Si vous avez des questions à lui poser ou lui témoigner quoi que ce soit, 02 99 67 35 35. Thierry, vous suivez François-Régis sur le net.
Alors, moi, j'aime beaucoup parce qu'il touche à tout, mais c'est aussi innovateur. Par exemple, les petites vidéos très, très bons.
Oui.
Qu'on peut retrouver à la télé, par exemple, sur Paris Première.
Paris Première, ouais.
Voilà, tout à fait. J'aime beaucoup ce côté court. Condensé, mais on déguste avec les yeux, et c'est bien, ça nous fait découvrir.
Ce qui est frustrant, parfois, voilà, faut pas se mentir. Ouais. Hein.
Mais c'est vrai que c'est à peu près le seul magazine du PAF, le seul magazine culinaire sans recette.
Oui.
L'idée, c'est qu'on est vraiment sur le principe en fait d'une chronique gastronomique, c'est-à-dire vraiment la visite de nouveaux restaurants ou d'établissements de bouche à Paris. Et effectivement, ensuite, on attribue, et c'est ça un peu la particularité, c'est qu'on visite des restaurants, des commerces de bouche, on paye systématiquement les notes et les additions, ce qui nous permet ensuite de remettre une note qui va de pas bon à très très bon, en passant par assez bon, bon ou très bon. Et sur chacun des établissements qu'on visite, on attribue une note qui est une façon finalement de juger l'établissement. Quoi.
Puis j'aime bien parce que c'est sans concession, parce que comme vous dites, vous payez. Donc du coup, après, vous êtes libre de dire ce que vous en avez pensé.
Voilà, bonne conscience.
De par vos statuts déjà, oui. Donc c'est très intéressant. J'aime beaucoup ça, version courte comme ça.
Bon, mais à force, François-Régis, vous ne faites pas griller. Les gens ne vous reconnaissent pas. Non, parce que c'est un risque d'exercice quand même.
Ouais. Avant, je pouvais dire que je visitais les restaurants de manière incognito. Ah, maintenant, on va dire que je suis plutôt anonyme. C'est-à-dire que ce que je fais quand je visite un restaurant, je fais à peu près 7 à 8 tables par semaine à Paris, en région aussi pas mal. Là, je suis à Rennes, donc
on va en parler.
Je vais évidemment.
Il y a 2-3 restaurateurs qui doivent avoir la pression.
Je vais évidemment en profiter. Mais c'est vrai que pour moi, la déontologie de base et qui me permet de faire mon travail avec une certaine impartialité et une forme de sérieux, c'est effectivement de réserver dans un restaurant sous un faux nom. Ensuite, quand j'arrive, il peut arriver effectivement que le chef me reconnaisse, tout simplement parce que j'ai une émission de radio, que je reçois des chefs, j'en interview également pour le magazine L'Express pour lequel je collabore depuis une dizaine d'années. Donc c'est vrai que parfois je peux être entre guillemets, comme vous le dites, grillé, mais ça m'empêche pas à la fin du repas de payer systématiquement mon addition. J'ai encore la chance de pratiquer mon métier adossé à un journal qui est L'Express, un hebdomadaire national, qui a encore les moyens de soutenir financièrement. Oui, c'est ça, et de soutenir financièrement. L'existence de page restaurant, d'une critique gastronomique dans L'Express. Donc je suis chanceux de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'après, le débat sur le critique gastronomique, le métier a tendance à s'appauvrir un petit peu. Et c'est vrai que les notes de frais sont de plus en plus rares parce que les médias, vous savez ce que c'est, ont de moins en moins de moyens. Et c'est un peu plus dur aujourd'hui d'exercer son métier.
Comment elle est arrivée dans votre vie, cette passion de la cuisine ?
Je crois que c'est un mélange de hasard et de passion, justement. La passion parce que j'ai grandi dans une famille très portée sur la chose.
Votre mère notamment, parce que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est que vous parlez de la cuisine de votre mère et on voit vraiment que ça vous a marqué, bercé.
J'ai voulu lui consacrer un petit cahier de recettes à la fin du bouquin.
Et c'est très beau ça.
J'ai été éveillé gustativement à la chose gastronomique avec les recettes de ma mère, comme tout le monde.
Comme souvent.
C'est souvent les recettes de la grand-mère ou de la maman ou éventuellement du papa quand il cuisine. Et c'est vrai que j'ai été bercé par le gratin dauphinois au cèpe, par le velouté de cresson, par le poulet calvi qui est une spécialité de poulet mijoté. Ma mère est d'origine corse.
Et
j'ai appris la cuisine aux côtés également de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère que j'ai connu. Donc ça, c'est pour le côté passion. Et puis le hasard, c'est que je voulais être plutôt cuisinier. Mes parents ont commencé par me dire fais d'abord des études et puis ensuite on verra. Et c'est vrai qu'à l'époque où je voulais être cuisinier, c'était un peu considéré le métier de cuisinier. Maintenant, heureusement, il est revalorisé, il est d'une grande noblesse.
Heureusement,
c'est une bonne chose. Il y a des vocations chez les jeunes qui veulent vraiment être cuisiniers. Moi, je les encourage à le faire parce que c'est un merveilleux métier. Je parle sous contrôle. Mais c'est vrai qu'à l'époque où moi j'ai 40 ans, à l'adolescence, quand j'étais en troisième, on mettait plutôt les gens qui
pas
les
l'école, hop, un travail manuel.
Voilà, un peu la voie de garage. Donc, ouais. Ils m'ont dit, mes parents, fais des études. J'ai fini par faire des études. Et puis ensuite, je suis devenu journaliste à l'Express. Et puis là, le naturel revient au galop. C'est-à-dire que vous commencez par faire des articles sur l'économie, la politique. Et puis peu à peu, en conférence de rédaction, vous proposez des
sujets. Ouais, c'est ça.
Sur ce que vous aimez, à savoir le brot de Chocorse, quelques autres produits. Et de fil en aiguille, vous vous enfermez en quelque sorte dans une spécialité.
Vous disiez qu'effectivement, les cuisiniers étaient mis à l'honneur, mais c'est une belle chose également pour la population tout court, qui a tendance à mieux manger, à s'intéresser de plus en plus. Nos émissions en sont un exemple.
Je suis bien d'accord.
À vraiment, aux produits et à bien les travailler.
Alors, soyez les bienvenus au 02 99 67 35 35, dans la cuisine de France Bleu Armorique, si vous voulez cuisiner avec nous et discuter avec nous en compagnie de François-Régis Gaudry, qui vient de sortir ce livre. On va déguster et qui cartonne déjà. Il sera, on le rappelle, ce soir à 18h à l'espace Ouest France à Rennes pour une rencontre dédicace. Véronique, bienvenue dans notre cuisine.
Oui, bonjour.
Bonjour Véronique. Comment allez-vous ?
Alors moi, j'habite Bourges, je vous écoute par internet.
D'accord.
Et je voulais faire un petit coucou, le livre me fait penser à ma fille, parce que j'ai une fille qui habite à Toulouse et qui a donc 31 ans et qui est beaucoup meilleure cuisinière que sa mère. Voilà. Et alors figurez-vous que la grande messe du dimanche ne se passe pas à la cathédrale, puisqu'on a une très belle cathédrale à Bourges, mais quand je vais chez elle à Toulouse le dimanche à 11h, il faut être revenu du marché pour écouter la France Inter.
C'est
rigolo parce que c'est vraiment dans les coutumes du dimanche matin.
Merci beaucoup.
Et pour ma fille, c'est sacré, croyez-moi, à 11h le dimanche matin.
Et Véronique, sachez également, quand vous êtes, et je veux pas faire de la mauvaise pub, mais sachez que vous avez également France Bleu Toulouse, si vous êtes sur la région là-bas également.
Elle écoute aussi France Bleu Toulouse, mais elle écoute plus l'ami, c'est votre groupe, hein.
On va pas s'en plaindre, Véronique.
Autant elle, et plus France Inter, j'allais dire.
Bon, ça fait plaisir, en tout cas.
Voilà. Merci. Et puis vous dire aussi que c'est peut-être pas un mensonge, puisque je suis allée dans une enseigne de Bourges, avant-hier, et qu'il y avait une rupture de stock sur ce livre-là.
C'est ce que je disais.
Jamais ici, de toute manière.
On a eu la chance aussi de l'offrir, toute la semaine dernière, Yann, dans l'émission Cuisine Ensemble, et ça, c'est plutôt un super cadeau, quoi.
Merci Véronique.
Voilà,
merci Véronique.
Merci. C'est gentil. Ma fille aussi.
C'est sympa. On vous embrasse.
Bonne journée.
Très belle journée.
Bonne journée. Bisous.
Je vous le disais, François-Régis, on a également l'occasion de parler de cuisine à travers les différents marchés de Bretagne. On va à la Garge de Bretagne où, depuis ce matin, Félix Legrand est notre baladeur. Félix, avec nous, qu'est-ce que vous avez comme bon produit à nous proposer, à nous et à François-Régis ?
Bonjour Yann, bonjour Sébastien, bonjour François-Régis. Eh bien écoutez, là nous sommes devant un stand où on vend du bon miel. Et c'est de saison, car je suis en compagnie de Jacques Duchesne. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors Jacques, vous faites ce marché ici à la Garge depuis quelques années maintenant?
Ah oui, maintenant, ça va faire 25 ans bientôt là, donc voilà.
Alors je vois que vous présentez du miel, il y a du miel de tilleul, du miel de sarrasin, de forêt.
Sarrasin, oui. Donc j'ai essentiellement du tout de fleurs, et puis autrement les ruches que je déplace, donc ça donne des sarrasins, tilleul, forêt, des choses comme ça quoi. Des miels que je trouve le plus loin c'est la bruyère, mais j'en ai plus, que je fais au Gaffriel.
D'accord. Donc, vous êtes apiculteur ou vous achetez...
Non, c'est de la production, voilà. Donc les ruches du Cafriel sont mortes, je dirais, donc il va falloir les changer au printemps. Là. Et il y a trop de gens à en emmener là-bas. Donc moi, ça faisait quasiment 20 ans que j'y étais là-bas. Et puis maintenant, il y a des gens qui amènent 50, 100 ruches, donc ça devient un peu problématique.
Mais bon, alors, quel est l'avenir de nos abeilles dont on parle énormément? On dit qu'elles sont en voie de disparition, que leur avenir est en danger. C'est vrai ou pas?
Je sais pas, moi je suis pas si pessimiste que ça, mais bon, on a des réels problèmes avec les frelons notamment, et puis les maladies, mais bon, moi ça fait... On disait déjà ça quand j'ai commencé, moi je me souviens, j'ai fait ma formation en 92, donc on s'inquiétait déjà, et puis finalement on est encore là, et heureusement d'ailleurs, parce que... Mais bon, moi je suis pas si pessimiste que ça, donc... Mais bon, on a des problèmes avec les phytosanitaires et puis les frelons. C'est surtout ça qui nous pose problème en ce moment, quoi.
Alors, Jacques, on est en train de faire une très belle émission animée par notre ami Yann Brialix, Sébastien et ses invités. Sébastien Gallo, il était très tendance de faire la cuisine au miel. Les gens viennent toujours acheter le petit pot de miel pour faire un plus en cuisine.
Ah oui, c'est assez fréquent maintenant. Il y a beaucoup de... Il y a déjà beaucoup de recettes, donc les gens veulent essayer, et puis c'est un petit plus, pour les... pour les recettes. Il y a même le lycée hôtelier de la Guerche, là, oui, qui fait des recettes avec ses élèves, là. Donc, je l'ai comme client, en fait. Donc, ils font des recettes un peu particulières. Ils inventent même. Donc, oui. Donc,
alors, Jacques, il y a toujours le lait au miel. Lorsqu'on tousse un petit peu, lorsqu'on est enrhumé, la petite eau de vie, l'eau de la région que l'on met avec du miel. C'est toujours d'actualité, ça?
Ah, oui, les tisanes, les choses comme ça, oui. Le lait miel, peut-être moins, mais les tisanes, c'est fréquent, oui. Ou le miel tout seul, les gens, ils prennent une cuillère de miel quand ça tousse un petit peu.
On vous trouve sur quel marché? Alors, celui de la Guerche tous les mardis, autrement, Jacques?
Eh bien, demain, c'est mercredi, donc Châteaubriant. Et puis, au début de ma carrière, je faisais Vitré. J'avais 4 marchés au début. Vitré, donc la Guerche, Châteaubriant, et je faisais les lices le samedi. Et puis, faute de production en 2011-2012, donc c'était un peu... J'avais pas assez de production, donc j'ai arrêté les lices. Donc, voilà.
Merci beaucoup Jacques Duchesne. Voilà, messieurs, n'oubliez pas de conseiller de vendre le miel lors de votre émission, car
bien sûr,
ça va faire plaisir à tous les apiculteurs. Hein.
Merci beaucoup.
Félix. Tout à l'heure, Yann, on se retrouve à 10h30.
Exactement. Ouais, bonjour à tous, en direct.
Clients d'Hélice, mais bon, désolé, je ne peux plus y aller.
Petit coucou à tous les anciens clients d'Hélice. Voilà,
on se retrouve tout à l'heure en direct du marché de la Guerche de Bretagne avec vous, Félix. Si on est de nous rejoindre, on est avec François-Régis Gaudry qui vient nous parler de son livre. On va déguster du même nom que son émission le dimanche matin. Alors là, on parlait du miel, pour le coup, François-Régis. Ça, c'est typique, justement, de terroir, le miel, parce qu'il y en a différents. Suivant les terroirs, ils n'ont pas le même goût, d'ailleurs. En Bretagne, on a notamment le miel de Ouessant, avec ses abeilles noires qui ne sont que sur l'île de Ouessant. J'imagine que ça aussi, c'est quelque chose que vous aimez, vraiment être dans le territoire, dans le goût, quoi.
C'est merveilleux, parce que où que vous alliez en France, même si on connaît... Le problème de la mortalité des abeilles, il y a toujours un miel qui le reflète son terroir.
Ouais.
On dressait le couvert vendredi dernier à Dijon pour une émission qui a été diffusée dimanche dernier sur France Inter. On était là aussi en direct de l'Opéra de Dijon en public et on a fait un reportage chez quelqu'un qui fait un miel bourguignon typique de Ronce du Mont-Blanc.
Qui
est un miel qui ressemble presque à du Saint-Doux, qui est très très pâle, avec des notes un peu mentholées. C'est absolument étonnant. On s'intéresse au miel d'ailleurs dans notre livre parce qu'on est même allé demander à Julien Henry, qui est un expert en miel, qui a une boutique très connu dans le quartier Madeleine à Paris, qui nous a recensé les miels les plus étonnants du monde. Et c'est vrai que on a recensé le miel de myrtille du Canada qui a étonnamment un goût fruité de myrtille très étonnant, le miel de bruyère de Norvège, le miel d'avocatier du Mexique, le miel de sarriette d'Espagne, le miel de manuka de Nouvelle-Zélande, qui est un miel dont on entend de plus en plus parler parce qu'il a des propriétés médicinales très très puissantes. Et puis on indique également la vinaigrette d'un chef que j'aime beaucoup, qui tient d'ailleurs d'origine bretonne, c'est Alain Passard.
Petit clin d'œil.
Trois étoiles Michelin, qui d'ailleurs a vraiment la Bretagne chevillée au corps en se souvenant de sa grand-mère. Et il fait une vinaigrette aigre douce au miel que je trouve magnifique. Je vous la donne, c'est vraiment deux lignes.
Bien sûr, allez-y.
Vous mélangez dans un bol le jus de deux citrons verts avec 70 grammes d'un miel un peu neutre, on peut prendre de l'acacia. Et ensuite, vous mélangez tout ça et vous montez ça un peu comme une mayonnaise en émulsionnant avec 15 centilitres d'huile d'olive. Et ça donne une vinaigrette un peu aigre douce qu'il fait lui avec des betteraves par exemple cuites en croûte de sel ou avec d'autres crudités ou une salade de carottes râpées. Franchement, c'est assez étonnant.
Alors, sachant que chez nous, on a quand même le miel de sarrasin, il faut le préciser.
Absolument. Miel tout à fait étonnant, et miel pour le coup vraiment identitaire et propre à la Bretagne.
Ouais, c'est ça. Hein. Le miel, c'est vraiment souvent un marqueur régional très important en termes de goût. Alors justement, on parlait du miel. On parlait de la cuisine également au miel. C'est quelque chose qui revient un peu à la mode en ce moment, ça aussi.
Ouais, il y a cette idée que le miel apporte à la fois non seulement évidemment une sucrosité, une suavité qui peut être assez flatteuse sur certaines préparations, mais en plus de cela, c'est vrai que les miels, par leur gamme aromatique très très large, on peut plutôt aller vers l'amertume avec des miels de châtaignier, on peut au contraire aller sur une certaine neutralité ou une douceur avec l'acacia. Les miels, par leur couleur et par leur gamme aromatique, organoleptique, c'est de formidables condiments, en quelque sorte. Ça peut même être pratiqué comme des épices. Éric Fréchon, par exemple, le chef 3 étoiles du Bristol à Paris, il travaille le miel de façon assez soutenue dans certains plats. Il déglace, par exemple, un magret de canard. Enfin, il le caramélise un petit peu au miel. Il le laque, absolument.
Pas mal, ça.
Le miel est évidemment un ingrédient indispensable.
Alors, on le disait, vous suivez énormément sur les réseaux sociaux notre invité Thierry. Justement, vous piquez des petits trucs comme ça, vous entre chefs, quand vous entendez quelque chose, bah, que ce soit avec notre invité sur France Inter ou sur France Bleu Armorique, vous entendez un chef, ça vous dit tiens.
Bah, faut rester produit, à l'écoute. Après, on va peut-être pas s'en servir tout de suite, mais ça rentre par une oreille, ça reste, ça cogite.
Ça imprègne, quoi.
Voilà, quelques semaines, quelques mois après, ça ressort différemment, retravaillé, remodelé à sa sauce. Mais c'est intéressant de s'imprégner de chaque univers. La cuisine, c'est ça. C'est de l'échange, du partage, des rencontres. Donc, faut vraiment, voilà, faut rester à l'écoute.
Il n'y a pas de copyright dans les recettes, hein.
Voilà. C'est ça. Au contraire,
les chefs les plus généreux, c'est ceux qui publient leurs recettes, les partagent avec leurs clients, avec des confrères. Ouais. C'est ça l'idée.
C'est pas figé.
Et l'idée aussi, c'est de se servir de la recette d'un chef, de l'utiliser comme une matière première, de la faire évoluer à sa sauce, de s'inspirer. Il n'y a aucun scrupule à regarder ce que fait le voisin. Ouais. À partir du moment où on ne fait pas une copie conforme, une photocopie du plat.
Qui, pour le coup, n'a pas d'intérêt.
Qui n'a pas d'intérêt. Et puis qui est, soit dit en passant, une pratique un peu, enfin qui est pas franchement, qui dénote pas une franche inspiration, voilà. Donc l'idée, c'est au contraire de s'en servir comme un point de départ, de la faire évoluer, éventuellement de l'adapter à son univers, à ce que Alain Ducasse appelle son terroir mental, à son terroir, à ses produits, et on en fait autre chose. Et c'est ces rebonds, c'est ces ricochets qui sont intéressants en cuisine.
Dans votre livre, vous nous donnez, François-Régis, de bonnes adresses, de bonnes tables, où trouver de la bonne bouillabaisse. Est-ce que vous avez des bonnes adresses pour du bon kika farce ici en Bretagne?
Alors, le bon kika farce,
dans le Finistère,
traditionnel, je serais pas forcément le mieux placé, mais je me souviens avoir goûté une version, entre guillemets,
revisité là aussi.
Ouais, mais revisité un peu façon luxe, mais en tout cas une recette extrêmement intéressante.
Ouais.
J'ai eu un choc gustatif quand je suis allé, il y a 2 ans, tester la cuisine d'Olivier Belin. L'auberge des Glaziques, Plot Moderne, dans le Finistère, à côté de la mer. Là, vous arrivez dans un établissement assez contemporain, un décor que j'ai qualifié gentiment d'improbable dans les colonnes de l'Express, et j'ai eu un choc quand j'ai goûté sa cuisine, et il fait notamment un kikar farce, revisité, vous devez le connaître.
Non, je ne connais pas. Non,
le kikar farce, c'est quand même ce pot-au-feu breton avec cette bouillie de sarrasin.
Ouais.
Il se trouve que c'est un plat paysan, plat extrêmement rustique, et très noble dans sa rusticité, évidemment.
Très riche.
Lui, il a eu l'idée de l'accommoder avec du homard. Il en a fait quelque chose d'exceptionnel. Et cette bouillie de sarrasin, qui peut être globalement un peu rustique et pâteuse dans la recette traditionnelle, même si je l'aime beaucoup, là, il en faisait quelque chose d'une légèreté absolument incroyable, avec les notes un peu amères du sarrasin, un homard cuit vraiment au cordeau, c'est-à-dire chair encore nacrée, un homard évidemment... qui est de Bretagne, et j'en garde un très très bon souvenir. Olivier Belin est pour moi l'un des jeunes chefs qui est candidat à une 3e étoile et l'un des grands espoirs de la vraie la cuisine française de demain, quoi.
Alors justement, par rapport à ça, on arrive en février, il y a des échos par rapport au Michelin?
Je suis pas... Alors d'habitude, je suis assez au courant des échos parce que régulièrement j'écris effectivement une revue des rumeurs qu'on peut avoir dans le milieu, dans mes colonnes à l'Express. Là, en l'occurrence, c'est encore un peu tôt.
D'accord.
Et je crois surtout que depuis quelques années, le Michelin a vraiment étanchéifié en quelque sorte ses murs.
Il y a eu des fuites, il y a eu beaucoup de fuites.
Il y a eu des fuites, mais très sincèrement, il faut s'en méfier parce que, bon, maintenant...
Maintenant, on joue maintenant des fuites.
C'est un peu la surenchère aux fuites. Ouais. On en a sur Facebook, sur les réseaux
teasers,
sociaux. Maintenant, il faut faire le tri parce qu'on se rend compte, en fait, que quand le palmarès arrive, il y a assez peu de rumeurs qui finalement sont confirmées.
Alors François, Régis, on le disait, l'émission, elle, dure depuis, en thème, la 6e année. C'est une émission où on parle de produits, où on parle de générosité, où on goûte. Il n'y a pas de caméra, et tant mieux, ça permet de conserver votre anonymat ici dans les studios. Mais on peut dire que par rapport à Sébastien et à moi, vous avez plutôt svelte. Comment vous faites? Parce que c'est notre grande question. Nous, on fait de la cuisine, vous voyez bien pourquoi on a été choisis. Comment on fait?
Ça n'empêche pas de manger. Alors, je pense que c'est lié à plusieurs trucs. D'abord, il y a une certaine forme de jeunesse, même si j'ai passé la barre des 40 ans.
C'est gentil. Je ne sais pas comment je dois le prendre, c'est que
si on se donne rendez-vous dans quelques années, je suis pas sûr que j'aurai forcément cette ligne, et qu'à un moment donné, vous savez bien, c'est malheureusement le désastre masculin, c'est que on finit par prendre
un petit bidon
un peu mal placé, un petit bidon, et puis ça a du charme, et pourquoi pas.
Bah voilà.
Donc ça m'attend à mon avis pour dans quelques saisons. Et puis par ailleurs, je mange assez équilibré, c'est-à-dire que quand je vais au restaurant, je me donne à fond. Alors là, j'y vais, entrée, plat, dessert, j'hésite pas à prendre des menus dégustation, quelques verres de vin évidemment. Donc là, effectivement, on est sur des expériences assez caloriques. Et puis après, quand vous
êtes sage.
Ouais, on est plutôt sage. C'est-à-dire qu'au déjeuner, quand j'ai fait une table effectivement assez généreuse, assez copieuse, le soir en général, j'ai pas forcément autant d'appétit.
Et une je suis soupe. Plutôt,
petite soupe. Voilà, une petite soupe, quelques tranches d'un bon jambon. Et en général, ça marche comme ça. Et puis, je fais aussi un petit peu de sport le dimanche matin.
Ah, c'est ça le secret,
Avant mon émission en direct sur France Inter, j'en profite, je viens un petit peu plus tôt au bureau et j'en profite pour faire quelques tours de la Tour Eiffel.
D'accord.
En courant, ça me fait une petite dizaine de kilomètres et ça me met en fait en forme pour l'émission du dimanche.
Bon, vous avez la maison ronde aussi,
ouais, hein,
c'est pratique pour faire un petit jogging.
Dans un instant, retour à la Guerche de Bretagne sur le marché avec Félix Legrand. On va voir où il en est et nous faire découvrir encore un autre produit. Tout à fait. Vous pouvez toujours nous appeler 02 99 67 35 35 pour discuter avec nous en compagnie de François-Régis Gaudry qui va dédicacer, on vous le rappelle, son livre. On va déguster donc ce soir à l'espace Ouest France à l'invitation de la librairie Le Fayard à 18h.
Ils ont même avancé un peu l'horaire en fait.
Ils l'ont avancé
en prévision.
Non, mais on va commencer à 17h parce que la librairie est fermée à 19h.
D'accord.
Ils ont préféré être un peu prudents et du coup, j'y serai à 18h aussi, hein, mais j'y serai dès 17h.
Voilà. Vous êtes en train de nous dire, François-Régis, que vous êtes du style à prendre du temps pour discuter avec les gens.
Mais oui,
mais vous avez
plaisir.
Ça fait plaisir. C'est bien.
Et puis je leur pique aussi leur bon plan de restaurant.
Ah, ouais, c'est malin.
Justement, ouais, des tables qui vous ont marqué particulièrement en Bretagne. On parlait tout à l'heure du Finistère.
Jean-Marie Bodic au Youpala, Saint-Brieuc, j'aime beaucoup. J'aime bien le bistrot Larsouille à Rennes.
Ouais.
J'ai goûté la cuisine de Julien Lemarié à la Coquerie, que je trouve aussi.
Coque Gatby là-bas.
Voilà, absolument, que je trouve une expérience japonisante très intéressante. Bon, j'ai une vraie passion pour Olivier Rollinger, mais là je suis pas très original. À Cancale, je trouve que son univers autour des épices, des voyages.
C'est un travail merveilleux. Hein.
Et quand même assez incroyable. J'aime beaucoup au Pont d'Assigné,
Sylvain Guinot. Ouais. Sylvain, qui
avec lequel j'avais d'ailleurs fait une émission il y a quelques années. Il était venu en direct dans nos studios parisiens pour une émission autour du beurre.
Ouais. Et on le salue d'ailleurs, Sylvain et Vincent qui va venir.
Et puis là, pour le coup, si on parle de beurre, on parle de Bretagne. Justement, on va aller à la Guerche de Bretagne d'ici quelques minutes. Ne bougez surtout pas.
France Bleu présente la fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne 2016. La tournée anniversaire.
Avec Alan Steven, Trian, le baguette de Landiwe et toujours les Irlandais du Celtic Dances.
La fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne.
Près de 3 heures de Celtic Show. Plus de 60 artistes sur scène. Retrouvez-nous samedi 12 mars à Paris à 16h et à 20h au Palais des Congrès.
Un spectacle présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Puis en tournée dans toute la France avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Et vive la Bretagne.
Les Bretons du bout du monde cette semaine avec Noël de Tadin et grâce à lui, nous prenons la direction de la Thaïlande.
Quand ils font des massages à l'huile, elles approchent un peu la main et si tu dis pop, pop. Par contre, si elles font un massage un peu plus poussé, il faut allonger un peu plus de monnaie quand même.
Les Bretons du bout du monde, suivez Noël en Thaïlande tous les jours à 6h25 et 18h08.
Il connaît la Bretagne comme sa poche. C'est Félix Legrand, le baladeur de France Bleu Armorique.
En cuisine ensemble et notre baladeur, lui, est sur le terrain depuis ce matin, très tôt à la Guerche de Bretagne, au marché. Et il a évidemment des produits à proposer à notre invité, François-Régis Gaudry, ce matin. Alors, on a parlé du miel tout à l'heure, Félix. Là, qu'est-ce que vous avez devant vous ?
Alors Yann, écoutez, je suis toujours sur la place Charles de Gaulle, ici, à la Guerche de Bretagne, parmi les produits de bouche. Hein. Il y a les rôtisseries à côté de nous, mais je vous propose de faire un petit écart et on va s'approcher d'une petite échoppe qui est installée pour l'occasion chaque mardi ici, sous les arcades de la Guerche de Bretagne. C'est Gilbert qui vient ici depuis des années et qui vend, alors il vend de tout, c'est le petit bazar, moi j'adore ça. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Alors Gilbert, vous vendez-vous du fil au mètre en bobine, de l'élastique pour retenir les jupes, les pantalons, tout cela à la coupe. C'est un petit peu du marché à l'ancienne qui est formidable.
Ah oui, tout à fait, c'est cela, oui.
Il y a combien de temps que vous faites le marché, Gilbert ?
Oh, 25 ans.
Et vous êtes basé, vous avez une boutique ici, non ?
Non, du tout. Non, j'habite juste ici, c'est tout.
On peut savoir un petit peu comment vous avez commencé à faire les marchés, à vendre comme cela ?
Alors, j'ai un ami qui faisait ça, je lui ai donné un coup de main, et puis après, j'ai pris le relais, voilà.
Alors, il est rare de voir des gens comme vous qui vendaient des bobines de fil, des petites bobines de fil à coudre. Hein,
ah oui, tout ça, c'est des bobines, c'est pour la couture.
Ça vient d'où, ça? Ça vient du Nord, c'est
Paris.
C'est Paris?
Paris, oui. Je me fais livrer de Paris, voilà.
D'accord. Et vous avez toujours été dans la couture?
Oh non, du tout.
Hop, là, il y a une petite bronchite, là. C'est vrai qu'on le dit depuis ce matin, ça se rafraîchit parce que c'est le vent qui s'est levé. Vous avez une petite bronchite, vous, non?
Ah, une belle petite, oui.
Alors, sur la gauche, là, c'est quoi, là, ce soir? Ah, les fermetures éclair.
Fermeture, de tout. Il y a de tout pour la couture.
Et c'est quoi, le fil chinois, là? C'est quoi, ça?
C'est spécial pour les boutons. C'est du fil dur comme tout, comme dans le temps.
Et puis, à droite, mais c'est incroyable, non? Vous avez combien de bobines de fil, là?
Oh, des milliers, qui à la maison, encore.
Alors, qui vient vous voir? Ce sont essentiellement les couturières qui font le déplacement à la Garche de Bretagne pour aller voir Gilbert.
C'est cela, oui, oui. Il y a ces anciens qui viennent me voir.
Et l'ambiance du marché, Gilbert, pour vous, c'est une ambiance particulière, sympa?
C'est sympa. On aime ça. Voilà, c'est tout.
Vous faites d'autres marchés dans la région?
Oui, on fait Châteaubriant, Renazé, Nord-sur-Erre, on fait tout ça.
Voilà, tout le sud de Rennes.
Voilà, oui.
Eh bien, merci beaucoup, Gilbert. Si vous
Félix,
me permettez...
Oui, Yann. Félix, excusez-moi. Je voudrais vérifier un truc. Est-ce que vous pouvez demander à Gilbert de dire cette phrase? C'est de la merde. Je voudrais vérifier juste un truc. Allez-y.
C'est de là?
C'est de la merde.
Parce que...
Non. Faites-lui dire la phrase, juste.
C'est parce qu'il a une voix qui ressemble à celle de...
On dirait Jean-Pierre Coff, ouais, en fait. C'est une blague que vous faites.
On me dit que vous avez un peu de la voix de Jean-Pierre Coff.
Ah bon?
Ouais.
Non, j'ai pas...
C'est bluffant.
Félix,
oui, alors justement, puisque vous parlez de cuisine et de Jean-Pierre Coff, je vous lis le menu en deux secondes. Oh, c'est un magnifique restaurant, c'est le Café des Marchands. Tenez-vous bien, il y a des sarments de vigne.
On se tient bien là.
Toute la viande est cuite sur sarments de vigne. Allez, pour ce midi, il y a un buffet de terrine de lapin au pruneau maison. Il y a de la remoulade de céleri et magret mariné. Il y a des tartes fines aux légumes, avec tartes fines aux légumes confits, crevettes et saumon. Autrement, il y a du parmentier de bœuf avec un jus réduit aux herbes salades. Tête et langue de veau, s'il vous plaît. Ça, c'est
un
sauce ravigote. Filet de merlu rôti à l'huile aux épices douces avec du riz et des fondus de courgettes, de l'échine grillée, sauce. Enfin, vous voyez,
ça donne
génial.
Envie. Est-ce qu'il faut choisir ou est-ce que c'est tout le menu, ça, en fait?
Non. Vous connaissant vous, je sais que vous êtes capable de prendre la carte entière.
Ouais.
Faites attention à l'addition. Parce que...
L'addition calorique, surtout pour moi. Merci Félix. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour parler toujours en direct de ce marché de la Garche de Bretagne. François-Régis Gaudry, votre livre, on va déguster. Vous ne parlez pas, alors ça c'est un petit écueil par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Vous ne parlez pas de fermeture éclair, pas d'élastique,
non.
Ni de ficelle dans ce...
Et pas mettre de fil surtout dans la fondue, la blague dans les
bouts. Parlez éventuellement de fil à brider, vous savez, quand vous utilisez une petite corde, une petite ficelle pour brider une volaille, mais on se limite à ça côté mercerie. Ouais.
c'est pas plus mal. Alors vous nous parlez de votre livre. On le disait, dédicace tout à l'heure, à partir de 17h.
Allons à la Garche de Bretagne, on y retourne, puisque Félix se balade actuellement sur le marché. Marie nous rejoint. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Bienvenue dans notre cuisine.
Merci.
Alors on vous écoute, Marie.
Eh bien voilà, je voulais juste passer un petit bonjour à toute l'équipe et puis à toute la Garche de Bretagne, puisque je suis habitante de là-bas.
D'accord, ben ça fait plaisir ça, Marie.
Marie.
Vous avez une petite question de cuisine à poser à notre invité, François-Régis?
Je voulais savoir si ça lui arrivait d'aller vraiment dans les petits villages pour aller tester donc les restaurants.
On peut dire
les
oui, je pense.
Oui.
Ah oui. Il est à Rennes. Non, à Rennes.
je me limite pas aux grandes agglomérations. Au contraire, même si ces dernières années, on peut, enfin c'est en tout cas un peu ce qu'on dit dans le... C'est un peu l'opinion qu'ont les gens sur l'idée que la gastronomie de village, les petites auberges ou les petits bistrots auraient tendance à disparaître. En cherchant bien, je peux vous assurer que partout en France, il y a encore un maillage extraordinaire de très jolies adresses dans des villages plus ou moins touristiques d'ailleurs. Et c'est ce qui fait le bonheur de ma profession. C'est à la fois de faire évidemment les grandes adresses étoilées, les palaces parisiens, mais c'est aussi de prendre sa voiture ou de prendre le train et d'aller un peu à la découverte de régions moins connues, de faire quelques pas et de faire... C'est en général dans ce genre de circonstances qu'on fait les découvertes les plus formidables.
Les meilleures surprises.
Donc vous aimez ça, vous, cuisiner, Marie?
Et oui, je suis d'ailleurs en direct là, mais en train de faire des chaussons pommes pour mes enfants.
Ah, bon, ah félicitations.
Ils ont de la chance, dites donc.
Vous en gardez quelques-uns, vous les donnez à Félix, il reviendra avec, d'accord?
Même pas de souci.
Merci Marie.
Merci Marie pour votre appel.
Est-ce que je peux passer un petit coucou?
Ouais, allez-y, on est parti.
Je vous remercie. Je passe un petit coucou donc à toute ma famille qui, comme par hasard, est en train de travailler au restaurant.
Ah, d'accord. Voilà. Quel restaurant?
Voilà.
C'est quel restaurant?
C'est le Café du Commerce à la Guerre.
Ah, bah d'accord.
Eh ben voilà.
Ah, bah, voilà, on les salue.
Bah, on salue toute l'équipe.
Merci
voilà,
Marie.
Bonne affaire familiale.
Bon, très
bientôt.
Bien.
Au revoir.
Bisous Marie, bonne
Merci
journée.
Merci beaucoup.
François Régis. Donc, on rappelle l'émission France Inter, 11h, l'heure de la messe, messe culinaire pour le coup. Mais imaginons qu'après 11h, on se dise, tiens, si on allait chez François Régis, qu'est-ce que vous nous proposeriez si on arrivait comme ça un peu à l'improviste, à la maison?
Ouais. Je cuisine de manière assez éclectique en fait. D'abord j'aime bien cuisiner au quotidien parce que j'ai une petite famille, une femme et deux filles de 9 et 6 ans et j'aime leur faire goûter des plats assez différents. Alors j'ai évidemment les plats dont
les
j'ai
best-of.
Hérité par ma mère et ma grand-mère que je fais assez régulièrement, tout dépend des saisons, mais ça peut m'arriver au printemps quand je trouve des petites auberges blanches, pas des aubergines, des courgettes blanches, de faire par exemple les courgettes farcies au brochot, vous savez ce fromage qui est une spécialité de ma grand-mère.
Là on est vraiment dans vos racines. Hein,
donc j'ai gardé la recette, mais je peux faire effectivement un velouté de cresson, que j'appelais quand j'étais petit la soupe verte de ma maman, un gratin dauphinois évidemment, poulet rôti, alors ça les enfants adorent, avec un très joli jus aillé, des frites maison, que je fais selon la recette d'ailleurs de Suzy Palatin, hein, la vraie frite en deux bains de friture.
Ah bah oui,
170 et 170 pour le côté à la fois moelleux et croustillant.
Toute une page sur la frite.
Oui, on en apprend beaucoup d'ailleurs sur les cuissons et sur la frite.
Oui, la frite est vraiment, on lui a consacré d'ailleurs plusieurs émissions, c'est vraiment un totem de notre gastronomie. Mmh. C'est pas un hasard si on les appelle les French fries de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est vrai que c'est quand même un plat qui répond à des règles très précises. Donc je pense que comme tout d'ailleurs, comme pour tout, faut être très précis. Mais si vous me demandez un plat que j'aime beaucoup, je suis aussi très attaché à la cuisine italienne.
D'accord.
Parce que je vais régulièrement en Italie. Et j'ai découvert il y a une dizaine d'années une recette que tous les Français connaissent, mais simplement que beaucoup de Français ont tendance à martyriser. C'est une certaine sauce carbonara à Rome. C'est vrai que la carbonara, cette espèce d'émulsion d'œuf que l'on met avec des lardons et dont on assaisonne des spaghettis, on a tendance à y mettre de la crème en France.
Ouais.
À plus forte raison en Normandie ou en Bretagne. Alors qu'en fait, la recette originale des vrais chefs de trattoria romaine, il n'y a pas de crème en fait. Il y a une émulsion qui se fait avec uniquement des œufs, essentiellement des jaunes. On met à peu près 3 jaunes pour un blanc. Mmh. Et puis ensuite, on mélange ça avec du pecorino romano, qui est un peu leur parmesan local, mais on peut mettre aussi du parmesan.
Qui donne le liant, qui donne la onctuosité.
Qui donne effectivement le crémeux. Et vous vous rendez compte que quand cette émulsion d'œuf avec le fromage râpé au contact de la pâte chaude, eh bien en fait, devient crémeuse.
Et
on n'a pas besoin de crème. D'abord, c'est moins calorique et en plus, c'est vraiment bien meilleur. On ajoute évidemment des très bons lardons. Les Italiens ajoutent de la guanciale, qui est vraiment cette partie de la joue porc, en fait.
D'accord.
Qui donne un goût assez particulier. Et là, on obtient un plat qui est à la fois très populaire et vraiment délicieux et qu'on peut faire à la maison sans crème.
Vous allez aussi au Vietnam, on voit ça avec quelques petites recettes. Vous voyagez beaucoup, François Régis ?
Oui, alors je voyage pas autant qu'avant parce qu'effectivement je dois être en direct le dimanche. Et c'est d'ailleurs un plaisir toutes les semaines d'être à l'antenne sur France Inter. Mais c'est vrai que du coup ça limite un peu mes déplacements. En fait, je peux me déplacer entre deux dimanches puisque j'essaie vraiment d'être en direct tous les dimanches. Donc quand je fais des voyages, ils sont effectivement, c'est des déplacements limités à 4-5 jours. Mais ça m'empêche pas d'aller voir du pays. Je pense que c'est d'ailleurs essentiel. Aujourd'hui, la France a certes encore est vraiment le pays de l'excellence gastronomique, mais la France n'a plus le monopole de l'excellence gastronomique. Et c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle, parce que la France a tout simplement essaimé ses talents, ses techniques, un peu partout dans le monde. Partout dans le monde, on continue.
Ça réveille aussi, ça crée
évidemment.
Compétition.
Ça crée une compétition, vous avez raison, une vraie émulation entre les chefs. Alors le solfège, souvent, quand vous allez à New York, à Lima, à Londres ou à Milan, le solfège est encore souvent, la technique est souvent française. Mais la musique, ensuite, est assez locale. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant d'aller se frotter à des expériences différentes dans des régions où on assiste à un vrai réveil gastronomique. Les pays du Nord, la Suède, évidemment Copenhague, l'Espagne, qui est maintenant désormais un Eldorado gastronomique incroyable. Vous avez également l'Amérique du Sud, où il se passe des choses assez épatantes, du côté de Lima, du côté de Mexico, qui devient une énorme capitale gastronomique, ce qu'elle n'était pas il y a encore une dizaine d'années. Donc, il y a effectivement comme ça une émulation mondiale en termes de gastronomie. Les Français tirent évidemment encore beaucoup leur épingle du jeu. Ouais. Moi, je ne ferais pas de friend bashing comme certains confrères anglo-saxons qui ont tendance à dire que
la cuisine française
est morte, etc. Faut quand même admettre qu'on s'est un peu endormi, on s'est un peu aussi assis sur nos lauriers.
Il y a une époque où on s'est un peu endormi.
Là, on se réveille et on se met en question.
Et en même temps, moi, je pratique ce métier depuis une quinzaine d'années. Les cinq premières années dans les années 90 de mon métier, on constatait effectivement une certaine fatigue de la gastronomie française, une remise en cause, on ne savait pas trop où les chefs allaient. Et depuis quelques années, il y a une génération incroyable qui d'ailleurs va aussi se former à l'étranger, qui non seulement va apporter son talent français à l'étranger, mais qui puise aussi des matières premières, des ressources, des techniques auprès d'autres talents qui sont dans d'autres villes étrangères. Et on en arrive à une situation où il y a désormais une énergie, une effervescence gastronomique en France qui est encore incroyable. Et d'ailleurs, dernière chose, la France continue à devenir une plateforme essentielle quand on veut se former à la cuisine. Ouais. Moi, je voyage beaucoup au Japon, c'est un pays que j'adore, j'y suis allé 6 ou 7 fois. Il y a encore énormément de talents japonais très attirés par la cuisine française, qui viennent se former en France dans des grandes brigades étoilées, et qui d'ailleurs très souvent aussi restent en France pour interpréter la cuisine française avec leur touche japonaise.
Et inversement, hein, d'ailleurs, y a l'échange va dans les deux sens, puisque la cuisine française, de plus en plus, se réinvente avec des touches venant d'autres horizons, et c'est ça qui est
Et c'est l'histoire de la cuisine française. Hein. La cuisine française, elle puise sa richesse précisément dans le partage et les échanges avec des influences étrangères. Et c'est ce qui a fait la force de la France, c'est d'intégrer précisément...
Garder le meilleur.
Fois, exactement, et puis le sublimer.
On parle du meilleur, mais quel est le plat le plus dégueu que vous avez pu déguster?
Le plat le plus dégueu, alors ce qui est assez amusant,
c'est que... Il n'a pas encore mangé chez vous. Hein,
non, mais en tout cas, on a consacré une page dans le livre On va déguster à ce que l'on appelle le pire de la junk food. Et là, on a établi un palmarès des pires horreurs qu'on peut trouver. Alors, pas trop en France, on est encore heureusement assez à l'abri de ce genre d'avatar. Mais si vous allez aux États-Unis ou ailleurs, vous vous retrouvez avec des créations hybrides entre... il y avait un milkshake au bacon surmonté d'un bun de hamburger, enfin des choses absolument abominables.
Et c'est là qu'on commence à regretter son métier de critique culinaire, parce qu'il faut goûter à un moment.
Non mais faut goûter le pire pour apprécier le meilleur aussi.
Ouais, vous avez raison. Alors parfois on peut aussi s'abstenir. j'avoue qu'on n'a pas...
L'obligation n'est pas forcément là.
On n'a pas passé toutes les spécialités au crash test, mais en tout cas c'était amusant de les recenser parce que ça dit quelque chose de notre époque aussi.
Alors justement, on parlait du pire, on va revenir au meilleur. Le meilleur, c'est bien évidemment les gens qui font leur métier avec passion, notamment sur les marchés et notamment sur la Garge de Bretagne où a lieu le marché du mardi avec Félix Legrand qui est en direct de ce marché de la Garge de Bretagne. Félix, qu'est-ce que vous avez pour nous ?
Eh ben écoutez, on est parmi les là on était toujours parmi les salades, parmi les rôtisseurs, parmi les vendeurs de miel. Il y a vraiment de très très belles choses, il y a des odeurs qui se croisent sous un soleil qui arrive et qui est vraiment très sympathique. Bref, on est dans une ambiance sympathique de marché et je suis en compagnie de Noël Bénard qui fait partie de l'équipe municipale qui est adjointe à la culture. Noël, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Très bien, je vous remercie.
Alors dites-moi, ce marché de la Garge, c'est toute une institution, c'est une histoire.
C'est toute une histoire, elle a au moins 1000 ans, et toujours le mardi. Toujours le mardi depuis la nuit des temps, on va dire maintenant, hein, c'est vrai.
Alors c'est depuis ce matin, c'est le rendez-vous hebdomadaire des Guerchaises, et des gens de la Loire-Atlantique et des gens du Maine-et-Loire.
Et la Mayenne. La Mayenne est tout à côté, 6 kilomètres, vous savez, alors ce sont nos clients préférés, on va dire. Voilà, ça, ils sont tous là et c'est bien. Alors hier, on en a discuté et justement, on disait que le guerchet était un canard parce qu'il n'a pas peur de la pluie, mais par contre, il a peur du froid. Alors, ce qui serait bien, si vous voulez venir nous voir de nouveau, ce serait de venir en juillet ou en août.
Bah écoutez, on fera le maximum pour venir. Voilà. Alors dites-moi, ce centre-bourg a une âme extraordinaire. On est devant cette église qui est presque basilique, j'allais dire.
C'est une basilique. Oui, c'est une basilique collégiale. C'est vraiment une basilique, oui. Mais à côté, vous avez l'église beaucoup plus ancienne que j'aime beaucoup, moi, personnellement, avec tous ces clochers, c'est quand même beau. Et vous avez aussi un prieuré à la Guerche qui se situe dans la rue de Rennes. En montant, vous l'avez, derrière la petite cave. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, ça a 1000 ans, c'est la naissance de la Guerche.
On dit que la guerre, c'était une commune où il y avait un petit peu de sous autrefois. C'était le carrefour où on commerçait énormément avec ce magnifique marché aux petits cochons et qu'il y avait de très belles terres. C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et je pense que ça a été le deuxième marché de France, je crois, à une époque. De France, oui. Oui, oui. Donc c'était important, mais il ne faisait pas que le cochon. Je pense qu'il faisait aussi les gros bovins, parce qu'on a des portes qui parlent dans la guerche, et c'est quand même assez amusant de voir toute cette vie qui a existé, qui perdure, parce que je pense qu'on est une des rares villes encore à avoir tout ce marché qui est un petit peu amoindri aujourd'hui, malgré le soleil. Mais quelquefois, on se porte.
Alors, ce centre-bourg de la guerre, ce qui est magnifique, j'ai vu une magnifique statue, c'est Saint-Joseph qui est un peu plus loin là-bas.
Ah oui, oui, c'était un magasin de vêtements, moi je ne l'ai pas, je ne suis pas forcément guerchaise, j'ai connu ça, c'était un magasin de vêtements, mais avant ça, vous avez un magasin de graines, je crois. Oui, je crois avant.
Ah bon, on en reparlera de ce marché de la Garche de Bretagne tout à l'heure, Félix. Tout à l'heure, puisqu'on vous retrouvera dans l'émission Microzonde, juste avant de jouer avec les concurrents.
Microzonde.
Et qui dit concurrent dit forcément question de sélection, petit aparté dans notre aventure culinaire, avec de très jolis cadeaux, un jeu en finale et un cadeau à gagner par jour.
Voilà, encore aujourd'hui, on vous offre ce magnifique livre-objet. C'est un super coffret avec des documents rares et inédits de Jean-Baptiste Charcot, l'explorateur des pôles. Vous avez plein de choses à l'intérieur très intéressantes. Alors, ça propose des reproductions en fac-similé de documents rares et inédits, télégrammes, des cartes postales qu'il a pu envoyer à la famille, et des menus assez impressionnants. Tiens, François-Régis, que dites-vous de ce menu qu'on peut trouver à l'intérieur? Des sardines à l'huile de phoque.
Ah, ça fait rêver ça. Hein,
sardines, ça commençait bien, à l'huile de phoque.
Après, une friture de plancton, on a un cornet de bœuf glacé aux pommes, un fromage de lait de baleine, enfin voilà.
Ouais, donc, il fallait... Étonnant. Alors, sachez que nous aussi, d'habitude, on goûte pas, mais là, on va tout vous faire goûter. Hein,
le piège. Donc ça, c'est le cadeau du jour jusqu'à jeudi. Vous pouvez gagner aussi une place en finale. Qu'est-ce qu'on gagne en finale?
Eh bien, c'est un magnifique week-end.
Un séjour pour donc la famille, deux adultes, deux enfants, pour le Futuroscope, le parc Futuroscope. Vous avez deux jours consécutifs à l'entrée du parc, le spectacle nocturne, nuit en hôtel sur le site du Futuroscope, et puis les petits déj. Enfin bref, ça, c'est à gagner en finale. Ça fait des beaux cadeaux, tout ça. Il faut répondre à cette question de sélection. Ça concerne justement le Futuroscope. Une attraction a été élue meilleure attraction au monde en 2014. Là-bas, c'est la machine à voyager dans le temps, avec des personnages de dessins animés un peu barrés. De qui s'agit-il? Vous nous appelez 02 99 67 35 35. Ce sont des lapins un peu spéciaux.
Allez, on vous attend. Ils ont une maison spécialement en Bretagne, d'ailleurs.
Ouais, d'accord. Ah ouais. Oui, vous allez nous en dire plus tout à l'heure.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, vous nous appelez maintenant pour cette question de sélection.
02 99 67 35 35 Microzonde.
Donc toujours en compagnie de François, Régis, Gaudry, qui nous propose ce magnifique ouvrage. D'ailleurs, vous allez le dédicacer, on le rappelle, hein. Et tout à l'heure, à 17h, donc à l'espace Ouest France à Rennes, on va déguster. On y trouve des recettes de cuisine très simples. On y trouve aussi beaucoup de conseils. On le rappelle sur, par exemple, le frigo. Qu'est-ce qu'on met au frigo ou pas?
Absolument. On sait jamais vraiment s'il faut mettre les pots de confiture,
les œufs
ou pas, au frigo, les œufs. Et on a fait toute une liste des ingrédients qui, justement, répondent à ce dilemme. Frigo ou pas frigo. Mmh. On a listé et on donne à peu près les réponses, qui sont des réponses argumentées. Les œufs, par exemple, il n'y a aucune raison de les mettre au frigo.